On ne naît pas femme, on le devient.
Bonjour à tous et bienvenue dans le troisième épisode de notre série de podcasts sur le conflit israélo-palestinien, ici sur Radio Mariac. Je suis Aurel et je suis accompagné de Yenis. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur des réactions internationales face aux événements survenus depuis le 7 octobre 2023 à Gaza.
Ce conflit, qui a débuté par une attaque du Hamas appelée « Déluge d'Al-Aqsa » en Israël, a suscité des réactions diverses à l'international, des réactions qui ne peuvent pas être lues à l'aune de critères simplement religieux ou ethniques de la part des acteurs internationaux. Nous pouvons distinguer trois types d'acteurs internationaux, les acteurs étatiques, les acteurs interétatiques et les acteurs non étatiques.
Mais revenons un peu en arrière, pour comprendre les faits qui ont déclenché cette escalade de la violence. Le 7 octobre 2023, le Hamas a lancé une attaque dévastatrice en Israël. Plus de 5000 roquettes ont été tirées sur le territoire israélien. Et une fête techno à proximité de la bande de Gaza a été envahie, faisant 1200 morts. 240 personnes ont également été blessées. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière qu'Israël ait connue depuis sa création en 1948.
Le 9 octobre 2023, en réponse à cette attaque, l'armée israélienne, Tsahal, a lancé l'opération militaire Glaive de fer. Cette opération se caractérise par un bombardement massif de Gaza et le déploiement considérable de troupes à la frontière. Ils ont annoncé le siège complet de l'enclave, interrompant l'approvisionnement en eau, en gaz, en carburant et en vivres. Aujourd'hui, selon l'UNICEF, agence de l'Organisation des Nations Unies, dans la bande de Gaza, près de 30 000 personnes seraient décédées et plus de 70 000 personnes auraient été blessées. Les femmes et les enfants représentent 70% des victimes.
Le président français, Emmanuel Macron, a condamné ces attaques et a exprimé la pleine solidarité de la France avec Israël, en réaffirmant néanmoins le soutien français à une solution à deux États, permettant la création d'un État palestinien indépendant. Il a également souligné la situation préoccupante des civils à Gaza et a exhorté Israël à arrêter les bombardements. En réponse, le président israélien Benjamin Netanyahou a critiqué le président français et sa démarche accusatrice, affirmant qu'Israël fait tout en son pouvoir pour épargner les civils et que la guerre menée depuis le 7 octobre a pour seul responsable le Hamas.
Au lendemain du 7 octobre, le président des États-Unis Joe Biden a assuré à Israël du, je cite, « soutien gravé dans le marbre et inébranlable des États-Unis face aux attaques terroristes du Hamas ». Ainsi, vendredi 8 décembre, les États-Unis posaient leur veto pour s'opposer à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Néanmoins, depuis, Washington commence à émettre des réserves quant à la stratégie de l'État hébreu. Le secrétaire d'État des États-Unis, Anthony Blinken, a ainsi reproché à l'armée israélienne de ne pas suffisamment protéger les civils de Gaza. Les mésententes pourraient même être plus profondes. Alors que les États-Unis souhaitent une issue politique à deux États au conflit, le gouvernement Netanyahou s'oppose à toute forme d'État palestinien. Malgré tout, les États-Unis restent parmi les seuls pays avec Israël à avoir voté contre, le 12 décembre dernier, une résolution non contraignante de l'Assemblée générale de l'ONU réclamant un cessez-le-feu humanitaire à Gaza.
Au Moyen-Orient, la plupart des États ont voté en faveur de la résolution de l'ONU. Les Émirats arabes unis et le Bahreïn, ayant signé les accords d'Abraham, constituant un traité de paix avec Israël, ont initialement condamné les attaques du Hamas. Cependant, le Bahreïn a récemment retiré son ambassadeur d'Israël, marquant un changement de position. La Jordanie a rappelé son ambassadeur, accusant Israël de créer une catastrophe humanitaire sans précédent. L'Arabie saoudite, bien qu'en discussion avec Israël sur une éventuelle normalisation, a appelé à l'arrêt immédiat des violences. Le 26 octobre, plusieurs ministres des Affaires étrangères du Moyen-Orient ont condamné le ciblage des civils et la violation du droit international à Gaza. Ils ont souligné que le droit à l'autodéfense ne justifie pas de négliger les droits des Palestiniens.
Contrairement à une idée reçue, les réactions internationales les plus fortes face à Israël ne proviennent ni de pays arabes, ni de pays musulmans. Ainsi, en Amérique latine, les États sont particulièrement sensibles à la cause palestinienne. Le président Evo Morales a ainsi annoncé le 14 janvier que l'État bolivien rompait ses relations diplomatiques avec Israël en signe de protestation contre l'offensive israélienne dans la bande de Gaza. Quelques heures après, le Venezuela annonçait à son tour qu'il rompait toute relation avec Israël. Le Chili et la Colombie, après les violations du droit international humanitaire commises dans la bande de Gaza, ont rappelé leur ambassadeur, tandis que le président brésilien Lula a accusé Israël de, je cite, « tuer des innocents sans aucun critère », jugeant la réponse de l'État hébreu aussi grave que les attaques du Hamas. Le Paraguay et le Guatemala sont les seuls pays d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale à avoir voté contre la résolution des Nations Unies.
Merci beaucoup. C'était la première partie de notre épisode sur les réactions internationales. Le quatrième portera sur les réactions de l'ONU, de l'Union européenne et des sociétés civiles. Merci Yenis.
Merci Aurel. Merci chers auditeurs.